Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Quel épisode étonnant que celui-là, où, alors que Jésus avait été déposé au tombeau, le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche, c'est pour cela que la communauté chrétienne se rassemble systématiquement le dimanche, que ce jour soit chômé ou pas. Alors, s'il n'est pas férié, c'est dans la nuit du samedi au dimanche, mais systématiquement, depuis les origines, à cause de la résurrection de Jésus, la communauté chrétienne de par le monde se rassemble le dimanche pour célébrer cette résurrection. On dit « aller à la messe », en fait, il faudrait dire « célébrons la résurrection », ce serait plus juste. Quel épisode donc étonnant que celui-là, les femmes découvrent le tombeau vide. Le tombeau est vide, le corps de Jésus n'est plus là. Marie-Madeleine pense à une violation de sépulture et elle va en avertir les disciples. Et ceci, avec ce petit jeu, vous avez remarqué, il y a Jean qui est un peu plus jeune, qui court plus vite, qui arrive le premier, qui regarde, mais enfin, qui n'entre pas, qui attend que le chef, qui est Pierre, arrive, lequel va entrer, constater, et puis Jean va rentrer derrière lui. Et à votre avis, lequel des deux va avoir le déclic pour comprendre que Jésus est ressuscité, pour y croire? C'est Jean. Voilà, c'est Jean qui a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Jean? Ah, oui, mais alors il a vu le linceul, parce qu'il avait assisté, lui, à la mise au tombeau quelques 70 heures avant, et donc il a vu que le linceul était tombé à plat, le corps de Jésus n'était plus dedans. Quelle curieuse vision! Et d'un seul coup, ça a fait tilt, si j'ose dire, et il a cru ce qu'annonçaient les prophètes, ce qu'annonçait l'Écriture dans l'Ancien Testament déjà, ce que Jésus avait dit, mais qu'il n'avait pas, ils n'avaient pas fait attention, comme on dit, ils n'ont pas flashé, n'est-ce pas? Jésus a parlé de sa mort, alors là, ils ont dit, oh là là, veux-tu te taire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça va mal finir, mais enfin non, il n'est pas question de ça. Et puis, Jésus ne se contentait pas d'annoncer sa mort, il annonçait aussi sa résurrection. Mais là, c'est comme si ça traversait, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Il ne faisait pas attention. C'est comme si ça n'existait pas. Il y avait un blanc, vous savez. Il y a des fois comme ça, il y a des choses qui sont invisibles. On ne se rend pas compte, quoi. Puis après, on se dit, ah, oh, mais enfin, bonsoir. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Jésus l'avait dit qu'il ressusciterait. Il l'avait annoncé. Et tout cela accumulé fait que Jean le premier, parce que peut-être il a un attachement de cœur à Jésus qui est clair, net et sans aucun doute, alors que Pierre, lui, est toujours pris dans ses circonvolutions cérébrales à se demander le pourquoi du comment du machin et du truc, et il a du mal à poser un acte de foi qui soit vraiment entier et simple. Eh bien, c'est Jean qui le premier croit. Il croit. Qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, c'est connaître par un outil qui est encore au-delà de l'outil rationnel. Il y a l'outil des sens qui permet de connaître en liaison avec notre cerveau. Il y a l'outil intellectuel qui permet d'analyser, de disséquer. Et puis il y a l'outil de la foi aussi, qui est encore un autre outil de connaissance, un troisième étage, et qui est plus puissant parce que il pénètre jusqu'en Dieu et il permet de connaître Dieu. Par la foi, nous connaissons Dieu. Par la foi, nous touchons Dieu. Par la foi, nous recevons la grâce de Dieu. Par la foi, nous recevons la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lors des baptêmes que nous allons célébrer, il est important de les faire précéder par un acte de foi. Je crois, Seigneur, je crois que tu es la vie et je crois que tu me donnes la vie, que tu me partages la vie. Par cet acte de foi, nous adhérons. Nous adhérons à Jésus et nous recevons. Sans acte de foi, nous nous contentons de rester au deuxième étage. C'est déjà pas mal, mais enfin, c'est un peu bloqué à ce niveau-là. Et on a du mal à recevoir parce que ce n'est que par la foi qu'on peut recevoir les réalités à proprement parler spirituelles. Mais regardez bien, au fond, des actes de foi qui ne sont pas forcément surnaturels, mais qui sont déjà naturels, on en pose plein dans notre vie courante. L'acte de foi, de croire en ce que quelqu'un nous a dit, mais qu'on ne peut pas constater, etc. Enfin, on pose toujours plein d'actes de confiance qui reposent sur la parole de quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, nous croyons sur le témoignage des premiers apôtres, particulièrement évidemment de ceux qui ont constaté le tombeau vide, reçu les apparitions de Jésus ressuscité, témoigné par leur prédication de cette résurrection et signé de leur sang leur témoignage. C'est important, il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Jean qui est là au tombeau et qui constate le linceul à plat, Jean va voir Jésus ressuscité quelques heures plus tard, mais Jean va aussi écrire son évangile quelques 40 ans plus tard. L'évangile, c'est trois lettres et l'Apocalypse. Et Jean sera martyr dans les mines de cuivre de l'île de Patmos. Et Jean finira par donner sa vie pour Jésus. Comme chacun des 12, ils ont signé leur témoignage dans le sang. Ils ont donné leur vie pour Jésus comme Jésus avait donné sa vie pour eux et pour nous. Et donc ce témoignage est important pour nous chrétiens, et puis il y a 2000 ans de témoignage derrière, nous, qui fait que nous sommes, nous, aujourd'hui, eh bien, ceux qui sommes appelés à croire en Jésus ressuscité et en témoigner autour de nous. Recevons ce témoignage de l'Église. Vous voyez comme c'est important au fond, l'Église, quelque pécheresse qu'elle soit, quelque tordue qu'elle soit à certains moments, l'Église est mère. C'est-à-dire qu'elle nous engendre à la foi. Elle nous porte dans la foi et elle nous porte le témoignage de la résurrection de Jésus. Souvent, l'Église nous énerve par ses petits côtés, n'est-ce pas? Et pourtant, elle a une place essentielle et décisive. Sans l'Église, nous ne pouvons pas croire. Et nous nous insérons nous-mêmes dans l'Église. Nous sommes membres, pierre vivante de cet édifice qui ne cesse de se construire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la marque du temps fixé par Dieu lui-même, lorsque Jésus ressuscité viendra dans sa gloire. Alors vous direz, mais moi Jésus, je n'ai pas vu, je n'ai jamais rencontré, d'ailleurs vous pouvez sortir de l'église tout à l'heure, regarder à droite et à gauche, vous n'allez pas voir Jésus ressuscité se promener dans la rue, car Jésus ressuscité, précisément, bénéficie d'un corps spirituel qui le rend invisible. Je veux dire, Jésus est rentré dans l'invisible de Dieu. À partir de sa résurrection, il n'est plus de ce monde-ci, quelque part. Il est du monde de la gloire. Il fait quelques brèves apparitions, dont on a les témoignages dans les Écritures, auprès des apôtres, mais fondamentalement, il est dans l'invisible de la gloire de Dieu. Pour que nous puissions déployer notre acte de foi, n'est-ce pas? Un Jésus qui s'impose à nos regards ne nous permet pas d'être libres de croire. Et son absence visible, mais sa présence intérieure, fait que nous pouvons poser notre acte de foi et adhérer à son amour et recevoir la vie. Aujourd'hui, l'Église proclame une grande nouvelle. La mort est vaincue. Vous savez, les gens disent autour de nous, personne n'en est jamais revenu. Ou encore, ils disent, ils ont toutes sortes de petits refrains comme ça qui sont faciles à se dédouaner d'aller chercher plus loin. Et nous, chrétiens, nous disons si Jésus a vaincu la mort, il est vraiment mort sur la croix, ça a été constaté, il est vraiment mis au tombeau et il est vraiment ressuscité pour lui avec le corps précédent qu'il avait, mais un corps glorifié. Il a fait constater les plaies de son corps. Et il a mangé devant les disciples pour bien faire comprendre qu'il n'était pas un fantôme. Oui, la mort est vaincue. Oui, nous sommes promis nous-mêmes à la résurrection, quel que soit pour nous le fait d'être déposé dans un cercueil ou incinéré. Peu importe, la question n'est pas là. Jésus nous accueille dans son corps glorifié et nous donnera un corps de résurrection semblable au sien à la fin des temps, lors de la résurrection de la chair. C'est ça notre foi chrétienne, ça va loin, ça va très loin. Et c'est aussi ce qui fait que nous sommes quelque part délivrés de la peur. Parce que beaucoup de gens vivent dans la peur de la mort, pas forcément une peur explicite, mais une façon de se masquer le problème en recouvrant de toutes sortes de voiles pour ne pas regarder en face, de toutes sortes de divertissements qui nous permettent de ne pas y penser. Mais nous chrétiens, nous voulons regarder les choses en face et en même temps aussi vraiment vivre aujourd'hui la joie de cette certitude. La mort est vaincue, Christ est ressuscité, et toi aussi, moi aussi, je ressusciterai.